Bonjour à tous, c'est Olivier Prêtre. Je suis heureux de vous retrouver avec un nouvel invité au micro de Mission Planète Terre. Haut fonctionnaire, après un passage en cabinet ministériel, il a été directeur général de département, de communauté d'agglomération, puis de syndicat mixte. Consultant international, il a fondé en France le cabinet de conseil Territoire et Stratégie. Il est aussi cofondateur au Maroc de Origine Maroc Garantie. Il est également conférencier international et l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. C'est en sa qualité d'expert international dans le domaine de la ressource en eau qu'il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Michel Vialat.
Bonjour Olivier Prêtre, et très heureux de répondre à vos questions.
Eh bien écoutez, bienvenue, nous on est heureux de vous accueillir donc au micro de IDFM Radio. Alors, première question, on va rentrer dans le vif du sujet. D'où provient majoritairement l'eau qui coule à notre robinet? Et parce qu'on se pose la question en ce moment, est-ce qu'elle est de moindre qualité que les eaux que nous achetons en bouteille de plastique? Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Alors, l'eau que nous consommons au robinet, nous Français, elle a pour provenance dans les grandes agglomérations, les fleuves et les cours d'eau, qui sont la ressource d'eau superficielle, qui évidemment est la source principale d'alimentation en eau. Et puis, nous avons les nappes souterraines, ce qu'on appelle les nappes phréatiques, qui sont la seconde source d'approvisionnement en eau dans notre pays. Cette ressource souterraine, elle est soumise aujourd'hui à une pression préoccupante liée au prélèvement que l'agriculture fait subir à ces nappes et deuxièmement au stress hydrique lié aux épisodes de sécheresse successifs que nous avons connus et qui altèrent cette ressource souterraine. Il faut donc bien se dire que l'eau du robinet, avec ses deux provenances, elle est un bienfait qui doit être mis sous une surveillance très attentive de la part des autorités publiques qui produisent l'eau potable.
Alors je voyais Michel Vialat hier... Oui, je regardais le journal télévisé hier soir et je voyais justement un reportage sur l'eau. Alors il y a eu beaucoup d'inondations, beaucoup de pluie ces derniers temps, notamment en 2024 par rapport à 2023. Et est-ce que du coup, alors les nappes phréatiques, les nappes souterraines sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus pleines que les autres années. Et est-ce que c'est un bon gage pour nous pour avoir de l'eau du robinet et pour ne pas souffrir des canicules par exemple?
Alors, nous avons, avec le changement climatique, à vivre un paradoxe qui est que nous connaissons depuis plusieurs années et que nous connaîtrons dans les années à venir des épisodes de précipitations très fortes, voire violentes, qui sont créatrices de phénomènes d'inondation, mais qui, évidemment, permettent le rechargement des nappes phréatiques. Il y a donc à la fois un effet dévastateur de ces épisodes climatiques sur les sols, sur l'agriculture, sur les populations, par les phénomènes de crues des cours d'eau et d'inondations qui vont avec, et en même temps, un phénomène positif de rechargement des nappes phréatiques.
C'est ça. On nous dit que la ressource en eau renouvelable, elle aurait diminué tout de même de 14% en France au cours des 15 dernières années.
Effectivement, il y a un phénomène tendanciel de diminution de la ressource souterraine en eau liée à l'augmentation des températures de la planète et au réchauffement climatique. Il est donc essentiel de réfléchir dès à présent en termes d'adaptation au changement climatique, aux mesures qui sont à prendre pour permettre le rechargement des nappes phréatiques en période de stress hydrique. Alors les technologies évoluent et on sait par exemple le département de la Vendée a pris des initiatives dans ce domaine, recharger des nappes phréatiques en utilisant la ressource en eau hivernale qui est plus abondante pour permettre de stocker de l'eau souterraine et de l'utiliser en période de stress hydrique.
Alors, on nous dit qu'aujourd'hui aussi, environ 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Et c'est un privilège encore aujourd'hui d'avoir l'accès à l'eau potable. Près de la moitié de la population mondiale connaît de graves pénuries d'eau pendant au moins une partie de l'année. Comment cette situation devrait-elle évoluer? Et allons-nous devoir faire face à des migrations climatiques?
Alors, la situation à l'échelle mondiale est effectivement extrêmement préoccupante. Il y a une vingtaine de pays dans le monde, sur les 160 à peu près qui sont représentés à l'Organisation des Nations Unies, qui ont une ressource extrêmement abondante. Et d'ailleurs, quand on en voit la liste, on est surpris d'observer que certains pays, par exemple d'Afrique centrale, je pense au Congo-Brazzaville ou au Gabon, disposent d'une ressource hydrique extrêmement importante par habitant et par an. À l'inverse, un certain nombre de pays connaissent une dégradation extrêmement rapide de leurs réserves en eau, et des pays très proches des nôtres, je pense à l'Espagne, dans l'Union européenne, mais je pense au Maroc. Le Maroc, en 1960, avait 2600 mètres cubes par an et par habitant de réserves en eau. Il est aujourd'hui à moins de 600 mètres cubes par habitant et par an. Cette tendance ne va faire que s'accroître et s'aggraver du fait du réchauffement climatique.
Est-ce que vous pensez, Michel Virat, que ces conflits, les conflits à venir, vont se cristalliser autour d'un sentiment d'appropriation, par exemple, voire peut-être de confiscation de l'eau par quelques-uns au détriment des autres?
C'est un phénomène qu'on connaît déjà en France. Vous vous souvenez des épisodes d'extrême violence qu'on a connus entre différents utilisateurs potentiels de l'eau à Sainte-Soline? Et on voit bien qu'aujourd'hui, les conflits d'usage entre utilisateurs de l'eau, la profession agricole, les consommateurs de l'eau du robinet et d'autres utilisateurs, je pense aux utilisateurs industriels, dans les pays qui sont en situation de stress hydrique grave, peut aller jusqu'à des phénomènes de violence extrême dont la France n'est pas d'ailleurs au demeurant épargnée. Il faut donc pouvoir penser la politique de l'eau dans les années à venir en ayant l'obligation de prévenir les conflits d'usage. Ça, c'est tout à fait essentiel. Dans les années à venir, les pouvoirs publics, les hommes politiques doivent avoir pour obsession, si je puis dire, de prévenir les conflits d'usage entre les différentes catégories d'usagers qui ont accès à l'eau.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos politiques s'intéressent suffisamment à la problématique de l'eau?
Alors, en France, l'épisode de stress hydrique que nous avons connu à l'été 2022 a sensibilisé brutalement la population et par conséquent les élus à l'enjeu de l'alimentation en eau. On s'est rendu compte que certaines villes, que certains villages, que des régions entières pouvaient se trouver en situation de rupture d'alimentation. Quel est l'enjeu en France dans les années à venir? C'est celui de l'économie d'eau et de la préservation de la ressource. Nous sommes dans un pays industrialisé qui connaît un taux de perte sur ses réseaux par leur vieillissement qui est encore trop élevé. Un investissement essentiel est à faire pour renouveler les réseaux et permettre de préserver chaque goutte d'eau, chaque mètre cube qui arrive dans les tuyaux jusqu'à l'usager à son robinet. Cet effort d'investissement, il est considérable. Et évidemment, dans le contexte budgétaire des collectivités locales françaises aujourd'hui, il est très difficile de mobiliser des moyens à la hauteur de l'enjeu. Et c'est pourquoi les partenariats publics-privés sont sans doute une des réponses à cet gigantesque effort d'investissement qui est attendu, comme cela se fait aujourd'hui dans le domaine énergétique avec la loi Cazeneuve.
Merci Michel Vialadj, on vous retrouve dans quelques instants, juste après une pause musicale.
My key doesn't fit in your lock and you're blocking my call. I'm happy to see that you finally got everything that you want. Send a big fuck you to my replacement. I see you're someone else's favorite now. In my mind, your mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. And a big fuck you to my rep. And a big fuck you.
I love the party, can you come and party with me? Let's go to Fiji, cause I know you need it. Let's take a vacation from party cities. All these bitches, they so artificial. They be laughing at me when I argue with you. And my mama love you like my mama had you. But I love your mama for having you. Pass me a cup, I don't even drink, but I'm getting drunk. I don't even smoke, pass me a blunt, I wanna puff. You can't stop me, you gotta block me, cause I'm turned up.
But and a big fuck you to my replacement. I see you're someone else's favorite now. In my mind, your mind, I might be crazy. I swear to God that I'm not hating now. Send a big fuck you to my replacement. Send a big fuck you to my replacement.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Voilà, on retrouve Michel Vialat, notre expert international dans le domaine de la ressource en eau. Il a accepté aujourd'hui de répondre à nos questions. Vous êtes toujours là, Michel Vialat ?
Tout à fait, je vous écoute.
Voilà, alors on va reprendre peut-être tout à l'heure, je vous ai parlé, nos auditeurs vont être intéressés et attendre cette réponse. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Donc entre l'eau du robinet, est-ce qu'elle est de bonne qualité ou est-ce qu'il faut consommer de l'eau en bouteille ?
Alors, je ne peux que conseiller la consommation de l'eau du robinet. Nous sommes dans un pays où les contrôles de qualité de l'eau potable, la surveillance de la production d'eau potable sont particulièrement rigoureux et nous avons une eau d'excellente qualité à une réserve près qui est une préoccupation nationale et qui est l'émergence des micropolluants dans l'eau depuis plusieurs années qui nécessitent à la fois une surveillance accrue de leur qualité mais aussi un renforcement des traitements de potabilisation de l'eau, en particulier avec une technologie qui s'appelle l'osmose inverse et qui permet aujourd'hui d'éliminer, d'éradiquer la quasi-totalité de ces micropolluants. Mais un effort d'investissement important est à faire sur nos usines de production d'eau potable qui est engagé et qui va se poursuivre et qui permettra de garantir dans la durée la qualité de l'eau que nous prélevons au robinet dans nos domiciles. Donc je ne peux que recommander l'usage de l'eau du robinet, d'autant que, évidemment, le recours à l'eau minérale en bouteille est un recours qui est, en termes de décarbonation aujourd'hui, évidemment contesté. Et puis, on sait aussi que la qualité de l'eau minérale en bouteille a subi quelques accros ces dernières années, qui nécessite un renforcement de la vigilance des autorités sanitaires.
On a parlé notamment de microplastiques qu'on retrouvait dans des bouteilles d'eau minérale, non ?
Alors, effectivement, des microplastiques peuvent se retrouver dans l'eau minérale en bouteille, mais aussi, et c'est la préoccupation du moment, la présence également de micropolluants dans l'eau de source qui est prélevée par les minéraliers, comme on dit, c'est-à-dire les producteurs d'eau en bouteille, et qui parfois les ont conduits, on a vu les débats qui se sont déroulés en 2023 et 2024 sur ce sujet, à couper cette eau avec d'autres ressources en eau et qui évidemment leur font enfreindre la réglementation européenne et française en matière d'embouteillage de l'eau.
Merci. Alors, on sait que la plupart de nos glaciers devraient disparaître d'ici une cinquantaine ou une centaine d'années. Qu'en est-il donc des réserves d'eau stockées dans les glaciers et la couverture neigeuse ? Est-ce que cet approvisionnement en eau est en danger pour tous ceux qui habitent dans les montagnes, par exemple ?
Alors, la fonte des glaciers est une préoccupation européenne, hein, d'ordre général, qui aura pour effet immédiat de renforcer l'abondance de l'eau dans nos cours d'eau. Je pense par exemple au fleuve Rhône. Dans les décennies qui viennent, les deux décennies qui viennent, mais qui, à moyen terme, poseront un problème probablement majeur d'alimentation en eau superficielle, l'eau de nos cours d'eau. Il est donc tout à fait essentiel de renforcer l'ensemble de l'action publique à l'échelle de l'État comme des collectivités territoriales pour respecter l'objectif des accords de Paris. Et la France, vous le savez, est dans ce domaine extrêmement attentive au respect des objectifs de l'accord de Paris de 2015 pour freiner, ralentir la fonte des glaciers qui est évidemment en termes de changement climatique un des enjeux majeurs de ce 21e siècle, d'autant qu'il emporte des effets sur la montée des eaux océaniques extrêmement préoccupants pour nos côtes, pour nos zones littorales.
Vous parlez justement des océans, Michel Vialat. Est-ce que la désalinisation des eaux de mer pourrait être une solution ? Est-ce qu'elle a déjà été mise en place ?
Alors, la France, en matière de désalinisation, a jusqu'à présent été extrêmement prudente. Et hormis des territoires d'outre-mer, je pense à Mayotte, qui ont des problèmes de stress hydrique très préoccupants et qui ont eu recours à la solution de la désalinisation, sur la métropole, les usines de désalinisation sont très peu nombreuses. Dans des pays comme les pays du Maghreb, je pense au Maroc, qui sont en situation de stress hydrique très grave, la seule ressource possible pour eux, en l'absence de précipitations après 6 ou 7 années de sécheresse, c'est le recours à la désalinisation. Les technologies de désalinisation ont progressé considérablement depuis plusieurs années. Elles présentaient un inconvénient majeur d'ordre écologique, qui est que les rejets de saumure en mer après traitement de l'eau, après potabilisation de l'eau, emportaient des effets assez dévastateurs sur les milieux marins. Mais la recherche et développement progresse et on peut espérer dans les 10 années à venir installer des usines de désalinisation de gros volumes en mètres cubes avec une réutilisation à des fins industrielles des saumures qui sont extraits de l'eau pour permettre de la rendre potable qui rend optimiste sur cette technologie et sa généralisation.
Vous nous parliez tout à l'heure des accords de Paris. Est-ce que si nous arrivons à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, est-ce que cela permettra de réduire la proportion de la population mondiale qui va subir des pénuries d'eau ?
Alors, très clairement, si l'objectif de 1,5 degré peut être garanti et atteint, les effets sur la préservation de la ressource en eau mondiale seront considérables. Hélas, des scientifiques éminents, je pense à l'agroclimatologue Serge Zaka, constatent dans leurs analyses actuelles que le niveau de réchauffement que nous constatons en France, mais qu'on constate de manière plus générale à l'échelle de la planète, dépasse les 2 degrés et expose par conséquent à des évolutions climatiques et à des atteintes à la ressource en eau qui ne permettront pas de garantir une alimentation durable en eau potable de la population mondiale.
Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur la qualité, mais sur la pollution de l'eau? Est-ce qu'il y a des conséquences?
Alors, les conséquences du réchauffement climatique sur la ressource en eau sont des conséquences à la fois quantitatives et qualitatives. Il est clair que la réduction des volumes stockés par la ressource souterraine, les nappes phréatiques, et dans la ressource superficielle, pensons par exemple au fait que d'ici 2050, le volume d'eau contenu dans les cours d'eau français, fleuves des rivières, est appelé à diminuer de l'ordre de 30% et emporte des conséquences qualitatives sur l'eau. Pourquoi ? Parce que nos usines de traitement des eaux usées, après traitement, rejettent dans les fleuves des cours d'eau ces volumes de mètres cubes, souvent considérables, et que à partir du moment où le fleuve qui reçoit ces eaux traitées a un volume d'eau globale inférieur de 30%, la dilution, l'homogénéisation des volumes qui sont reçus dans le fleuve après traitement se fait naturellement moins bien. Et comme nos usines de production d'eau potable viennent repomper dans ce même fleuve les eaux qui sont censées avoir été homogénéisées et diluées, on est face à une problématique qui, dans les décennies à venir, expose à une altération de la qualité de l'eau potabilisable.
D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, alors, dans un autre domaine, celui de l'agriculture? Qu'est-ce que vous pensez, Michel Vialat, de l'agriculture intelligente face au changement climatique? Je pense notamment au recours à l'irrigation, au goutte à goutte. Quel est votre sentiment là-dessus?
Alors, c'est une dimension majeure de l'évolution des politiques agricoles européennes. Il est très clair que le modèle agricole, le modèle de culture intensive que nous connaissons depuis les années 60, est à repenser. Et les agriculteurs français sont au travail pour imaginer une évolution de leur modèle qui permette de faire face à une résilience accrue au stress hydrique. Alors, les technologies vont très vite. Les technologies permettent aujourd'hui, par les prévisions météorologiques, par effectivement l'évolution des techniques d'irrigation et notamment le recours au goutte à goutte, favoriser des modes de culture beaucoup plus économes en eau. Et par ailleurs, les recherches agronomiques sur les types de cultures, les types de semences qui sont utilisées par la profession agricole, avec des plantes qui offrent une capacité de résilience et de résistance à la sécheresse beaucoup plus grande, permettront d'économiser l'eau d'irrigation dans le même temps où celle-ci voit ses techniques évoluer dans le sens d'une amélioration de l'économie de la ressource. Donc je suis très optimiste sur la capacité de la profession agricole à s'adapter, à conforter sa résilience face au renouvellement inéluctable des périodes de sécheresse que nous connaîtrons dans les années et dans les décennies à venir.
Michel Vialat, vous êtes l'auteur d'un concept dont vous avez proposé une définition en droit international, celui de la souveraineté hydrique des États et des peuples. Qu'entendez-vous par là?
Alors, c'est face à la situation sur laquelle nous échangeons depuis quelques minutes, une dimension essentielle de l'action des pouvoirs publics dans l'ensemble des États de la planète. Aujourd'hui, certains États ne sont plus autosuffisants en eau et ne seront plus en capacité, pour certains ne le sont plus déjà, à satisfaire les besoins de leur population et de leur agriculture. On voit d'ailleurs aujourd'hui des phénomènes se développer comme des achats d'eau internationaux. L'Espagne, par exemple, à deux reprises dans la décennie qui vient de s'écouler, pour alimenter la région de Barcelone en eau potable, a dû faire appel à un apport d'eau venant de pays voisins, notamment de la France, par cargo citerne, pour alimenter sa population et la profession agricole. Or, l'eau aujourd'hui, patrimoine commun de l'humanité, n'est pas considérée par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ou les grandes organisations internationales, comme un bien économique, comme un bien marchand. Il est essentiel de réguler par une norme internationale qui est à créer et dont effectivement j'ai proposé la définition, les conditions dans lesquelles les transferts, je dirais transfrontaliers, de ressources en eau brute peuvent s'effectuer dans l'avenir pour éviter les fameux conflits interétatiques qui sont susceptibles de survenir à tout moment du fait de l'insuffisance de la ressource en eau de certains pays, il y a besoin d'une norme qui vienne définir les conditions dans lesquelles on échange l'eau au plan économique et on garantit la capacité des États à assurer la souveraineté hydrique, c'est-à-dire la protection de leur population au regard de leurs besoins en eau potable.
Très bien, je vais peut-être terminer par une citation, vous savez, de Simon Porcher, qui est professeur des universités, spécialiste de la gestion de l'eau, et qui nous dit « Parce que l'eau ne peut se réduire à de la matière ou de la tuyauterie, sa gestion est un laboratoire où s'invente la démocratie. » Et je vous laisse le mot de la fin, Michel Vial. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je trouve que c'est une réflexion de grande intensité qui, au fond, résume parfaitement les termes de l'échange que j'ai eu avec vous et de cette problématique à laquelle nous avons à faire face dans les trois décennies à venir. L'eau est le problème majeur auquel la population mondiale aura à faire face devant l'inéluctable réchauffement climatique de notre planète.
Merci beaucoup Michel Vialat d'avoir accepté d'être venu au micro de IDFM Radio.
C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Merci, vous aussi.
Voilà, nous venons de le voir avec Michel Vialat, il existe un lien indissociable entre l'eau et les changements climatiques. Les changements climatiques ont, il est vrai, des répercussions complexes sur l'eau dans le monde. On vient de le voir avec cet expert international sur la gouvernance de l'eau. Voilà, merci d'avoir été à l'écoute d'IFM Radio. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission de Mission Planète Terre.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
IDFM Radio 98 FM.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love.
Ça fait un moment, j'ai déjà chouré à ton cœur, mais j'ai dû le faire tomber. Trop de silence, partir ou rester. Tu me dis pas ce que tu veux, mais moi tu sais ce que je veux. Donne-moi le contrôle. Au pire, passe-moi les clés de ton cœur. Toi-même, tu sais, je peux être ton épaule. Me laisse pas me cramer tout seul.
Tu veux la clé de mon cœur, mais je peux pas te la donner. J'ai été trahi trop de fois, stranger, tu le sais. On passe du bon temps, je ne peux pas le nier. Ton corps est excitant, je ne peux pas m'en cacher. Ouh là 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 là, tu veux me piloter, mais as-tu le niveau? Ouh là 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 là, tu veux que je te rejoigne, mais garderas-tu le tempo?
Ouh là là, passe me voir, je veux qu'on puisse se voir, je veux qu'on puisse être seul.
Tu sais que si je te vois, il faut que tu me montres ce que tu sais faire.
Ouh là là. Je veux qu'on puisse se voir, je veux qu'on puisse être seul. Oh là, y'a trop de regards, j'ai compris dans le noir, c'est jaloux, on le sait. Oh là là, passe me voir, je veux qu'on puisse se voir, je veux qu'on puisse être seul. Oh là, y'a trop de regards, j'ai compris dans le noir, c'est jaloux, on le sait.
Prends ta décision, ça fait un moment que ça dure, ça devient puissant. Oublie ces malédictions, c'est pas de la magie. Rentre dans le jeu, on verra qui sera toxique. Je veux pas que tu sois facile, mais c'est bon, c'est bon. T'es mon joli bonbon. Quand nos corps sont mélangés, ben c'est que c'est bon, donne-moi un joli suçon.
Si tu me donnes des raisons, je pourrais sûrement me laisser tenter. Attends, à raison, je te laisse le choix de décider.
Tu sais que si je te vois, il faut que tu me montres ce que tu sais faire.
Oh
bien sur IDFM Radio.
Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the day just seems so dark. The moon, the stars, and nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling's overwhelming. It's much too strong. Can I? Next to you, you, and make sure you're alright. I'll take care of you. I don't.
Consegue-me ouvir, meu amor, ainda te chamo. Tanto tempo sem você, tanta saudade de você. Pra não chorar, mas hoje dói. É impossível segurar. Você se foi.
And everything's changing for the worse. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
No, I can't take one more step towards you. 'Cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most.
FM Radio, le média valdoisien.
Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas.
Il suffirait de rien, juste un peu de courage, prendre son destin en main, apprendre à oublier et à tourner la page. Il suffirait de rien, comme il dit, juste un signe, rien qu'une aube un matin, et décider enfin d'écrire ses propres lignes.
Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas.
Il suffirait de rien, juste la résilience, n'avoir plus peur de rien, bousculer son confort et prendre un peu le risque de provoquer la chance. Il suffirait de rien, au juste de choisir, ne plus remettre à demain, on ne change pas le passé, ce qui est fait, fait, mais on écrit l'avenir.
Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne lance pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas, fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas.
Il y a trop de routes
que l'on ne prend pas. Il y a trop de doutes que l'on garde en soi. Il y a trop de choses que l'on n'ose pas. Trop de bouquets de roses que l'on n'offre pas.
Il y a tant de choses que l'on n'ose pas. Tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas. Et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danses qu'on ne danse pas. Tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas. Et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas.
Chérie, je t'ai fait un gros bisou. Je t'ai fait un gros bisou. Je t'embrasse fort.
FM 98 FM.
Came from.
limitations. Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smile.
Bien sur IDFM Radio.
Retrouvez la matinale du lundi au vendredi de 7h à 9h30. Toute l'actu locale, la météo, l'horoscope, l'album de la semaine, des cadeaux à gagner et l'invité du jour avec Christophe sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Jacqueline Voraz sur IDFM Radio. Retrouvez-moi tous les mardis et vendredis matin de 9h30 à 11h dans l'économie en direct. Une émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux associations, aux élus, aux instituts de formation. Bref, à tous ces passionnés qui participent à la vie économique ou politique du territoire. Alors, pour en savoir plus, n'oubliez pas, rendez-vous le mardi et vendredi de 9h30 à 11h dans l'économie en direct sur IDFM Radio.